savoir pourquoi vous viendrez me voir à la fin de la réunion. Alors ce matin, en ce premier dimanche de l'année, mon cœur veut démarrer du bon pied. Je veux starter l'année avec la meilleure résolution possible. Est-ce qu'il y en a qui ont fait des résolutions? Non? Bon, ben là vous allez en faire une à la fin de mon message, ok? Cette année, on choisit d'avoir la foi et de faire confiance à Jésus tous les jours de l'année. Pour nos projets, pour nos attentes, pour nos espoirs, pour nos défis, pour notre carrière, pour notre famille, nos relations et bien sûr notre Église. Amen. Et ce matin, on veut déclarer par la foi notre victoire, notre délivrance, notre espérance, notre force, notre joie, notre guérison en 2024. Amen. Et c'est ça qu'on va faire cette année. Moi, c'est ça que je veux cette année, déclarer la victoire. Déclarer notre espérance. Je vous invite à tourner dans Hébreux 11, au verset 1. Ça va être notre texte ce matin, notre texte qu'on va étudier. Hébreux 11, au verset 1. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tout simplement. Mais aussi profond que ça. Hébreux 11, il nous parle de la foi. Hein, si vous allez lire tous les chapitres de Hébreux 11, ça nous parle de la foi. Par la foi, par la foi. Et il nous fait le rappel des événements de foi glorieux de l'Ancien Testament. C'est ça que fait Hébreux 11. Il nous met de l'avant tous ces hommes et ces femmes qui ont eu un impact important dans l'histoire du peuple d'Israël, mais aussi dans l'histoire de la foi, et qui sont aujourd'hui des références. C'est puissant, ça. Qui sont des références pour nous aujourd'hui. Et ils nous partagent, ces gens-là de l'Ancien Testament, nous partagent l'exemple de l'attitude de quelqu'un qui possède en lui la vraie foi. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin, la vraie foi. Le chapitre 11 nous révèle la nature de la forme de foi qui plaît à Dieu. Et moi, je l'ai appelée, et j'aime l'appeler, la vraie foi. Et la vraie foi, qu'est-ce que c'est? Je vous fais une petite liste rapide, mais ce n'est pas ça qu'on va étudier. La vraie foi, c'est une foi qui triomphe dans les pires situations. La vraie foi, c'est une foi qui croit aux réalités spirituelles. La vraie foi, c'est une foi qui conduit à la justice, qui croit en la bonté de Dieu, qui a confiance en la parole de Dieu, qui obéit aux commandements de Dieu, qui aligne sa vie sur les promesses de Dieu, qui rejette les désirs de la chair et du siècle présent, qui recherche le royaume de Dieu, qui bénit aujourd'hui et les générations futures, qui rejette le péché, qui supporte la persécution et souffre pour Dieu, qui accomplit des actes de justice. C'est une foi qui ne retourne pas en arrière, mais qui va de l'avant. Et ça, c'est toutes les caractéristiques d'une vraie foi. Mais mon but, ce n'est pas de détailler tout ça ce matin. Mon but ce matin, c'est plutôt de m'attarder à deux attitudes de la foi, ou bien plutôt à l'identité de la foi, pour que cette foi soit véritable et agréable à Dieu. Amen. La foi, la vraie foi, c'est celle qui triomphe dans l'espérance. On l'a lu dans le premier bout du verset de Hébreux 11:1. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. On s'arrête là pour le moment. Et l'espérance, c'est quoi? L'espérance, c'est l'inconnu. L'espérance, c'est considéré comme capable de se réaliser. Un événement, un acte, quelque chose qui est attendu, désiré. L'espérance, c'est attendre quelque chose de quelqu'un ou de quelque chose. Hein? L'espérance, c'est aussi mettre sa confiance en quelqu'un, en quelque chose, compter sûr. Et quand on parle d'espérance autour de nous, dans le monde, il y a beaucoup de gens, ou de foi même, qui vont nous dire, la société va nous dire, les courants de pensée vont nous dire, que la foi, c'est espérer, mais avec des pensées positives. Hein? Je pense qu'on l'a tous entendu. Croyez, ayez foi, et vous verrez, tout va bien aller. Peu importe en quoi ou en qui tu crois, si tu crois, ça va se passer. Ayez foi en vos projets, en vos moyens, en votre bonne étoile. Je pense qu'on a tous entendu ces genres de phrases-là, qui sont des bonnes pensées positives. Mais cette espérance-là, là, c'est pas la vraie foi. Parce que cette façon de penser repose seulement sur nous. Seulement sur nous, des êtres humains, qui peuvent être trompés, qui peuvent être menteurs, qui peuvent mentir, qui peuvent oublier. Elle repose sur rien de solide, cette pensée positive. Elle repose sur la vie, qu'on sait qu'elle s'arrête, sur la chance, la bonne étoile. La foi, ce n'est pas une pensée positive, frères et sœurs. La foi, ce n'est pas une intuition. Ce n'est pas une tentation émotionnelle. Ce n'est pas un feeling. La foi, ce n'est pas ça. Autrement dit, la foi, elle n'est pas aveugle. La foi, elle n'est pas instable. Et j'ai fait pas mal de recherches pour mon message. Vous allez voir, j'ai plusieurs commentaires, plusieurs belles choses. Et il y a une phrase en particulier. Pour ceux qui prennent des notes, notez-la, celle-là. La foi est une réponse à la parole de Dieu. Voilà. La foi est une réponse à la parole de Dieu. Voilà ce que c'est la vraie foi. Ce n'est pas une pensée positive. La vraie foi, c'est une réponse à ce que Dieu te parle et ce que Dieu te dit. Et la vraie foi, elle fait entièrement confiance à Dieu, en tout temps et en toutes circonstances. La vraie foi, elle est basée sur la parole de Dieu, pas sur ce que tu ressens. La vraie foi, elle reconnaît que la Bible est la parole de Dieu et que cette parole se réalise, qu'elle va se réaliser et même qu'elle est déjà réalisée. La vraie foi, c'est une conviction solide et réelle dans les promesses de Dieu. Et un commentaire qui dit, dans mes nombreuses recherches que j'ai faites, « La vraie foi est une conviction solide concernant notre avenir, parce que nous nous fions à la parole de Dieu. La foi n'a pas de puissance en elle-même. Sa puissance vient de l'Esprit de Dieu qui produit la foi dans nos cœurs et qui nous rend capables de saisir la promesse de Dieu. » Et cette conviction, c'est cette conviction qui va nous permettre à nous, les enfants de Dieu, et à celui qui croit d'être assuré de pouvoir avancer avec ce que Dieu met et ce que Dieu dit dans sa parole. Amen. On va les prendre deux exemples extrêmement connus de la foi dans l'Ancien Testament. Genèse 12, versets 1 à 3. Je pense que tout le monde connaît un petit peu ce passage-là. On l'utilise pour beaucoup de choses. Genèse 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Verset 4. Abraham partit conformément à la parole de Dieu. Et Lot partit avec lui. Abraham était alors âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Abraham partit conformément à la parole de Dieu. Ça, soulignez-le dans votre Bible. Ben pas sur votre téléphone parce que ça va laisser une trace, mais dans votre Bible. C'est Abraham partit conformément à la parole de Dieu. Et c'est cette foi qui permet à Abraham de partir sans confronter Dieu. Parce qu'il croyait fermement dans la parole de Dieu. Parce qu'il croyait, il avait confiance en la parole de Dieu. Et que la parole de Dieu se réalise. Il avait confiance que Dieu lui avait déjà préparé un meilleur pays et une meilleure patrie. Vous savez, les gens nous disent « crois-moi sur parole ». Non, non. Par contre, Dieu, quand il te dit « crois-moi sur parole », crois-le sur parole. C'est ce qu'Abraham, il a fait. Il partit conformément à la parole de l'Éternel. Donc, crois-moi sur parole, Abraham, j'ai quelque chose de mieux pour toi. Il y a quelque chose de déjà prêt pour toi. Pas qui va se préparer. Non, c'est prêt. Lol. Et ça, c'est Abraham. Il est parti sur la parole de Dieu parce qu'il avait confiance. Est-ce que ça a été facile? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Pour personne, c'est facile de faire ce qu'Abraham a fait. Est-ce qu'il s'est posé des questions? Je pense bien. C'est un être humain, comme nous, se pose des questions. Est-ce qu'il a cru? Oui. Il a cru en la parole de Dieu. Que Dieu avait une promesse. Il a cru que Dieu avait un meilleur pays, un meilleur avenir, une victoire. Abraham a agi en ne connaissant pas comment ça allait se passer, mais en étant attaché à l'espérance qu'un jour, il serait, lui et sa famille, dans un meilleur pays. Qu'un jour, la promesse de Dieu allait se réaliser. Et Abraham avait confiance en Dieu, confiance en cette parole et en ses promesses. Puis il savait qu'il n'avait rien à craindre. C'est ça qui est beau. Et ça, ça lui suffisait pour aller de l'avant. Dieu n'a pas eu besoin de faire des miracles extraordinaires pour convaincre Abraham de partir. Sur sa parole, il est parti. Parce que Abraham avait confiance, il savait qu'il n'avait pas à craindre, et ça lui suffisait. Est-ce qu'Abraham a vu toute la promesse se réaliser? Non. Parce qu'il est le père d'une multitude, puis il n'est plus là, puis on est encore la multitude. Qu'il n'a pas tout vu se réaliser. Mais ça ne l'a pas découragé de se lever, par exemple. Pas parce qu'il n'a pas vu la fin, ou qu'il n'a pas tout vu, qu'il s'est découragé. Ça ne l'a pas découragé de se lever. Ça ne l'a pas découragé d'agir, et de partir, et de garder la foi. Et la foi d'Abraham a triomphé dans son espérance en la promesse de Dieu, car il a obéi en agissant et en faisant confiance à Dieu. La vraie foi, là, je le rappelle, ce n'est pas une pensée positive. La vraie foi, c'est la ferme assurance de ce qui n'est pas encore arrivé, mais que nous possédons déjà. C'est l'assurance que ce que Dieu dit va se réaliser. Et c'est déjà réalisé. Et Abraham, lui, il croyait en la réalisation de la promesse de Dieu. Et c'est cette conviction qui le motive à ancrer sa foi. C'est cette conviction qui ancre sa confiance en Dieu pour le garder dans la motivation d'avancer. Hein ? On sait que ce n'est pas le lendemain qu'il est entré dans la promesse. Ça a été lent. On va le voir tantôt aussi, ça a été lent. Et c'est cette espérance-là, même si c'est lent avant d'avoir la réalisation de la promesse de Dieu, qui doit nous garder fermes et attachés en Dieu. Et c'est ça la foi, c'est garder ferme notre espérance que ça va se réaliser, que ça s'est réalisé, qu'il y a déjà quelque chose pour moi. Et malheureusement, nous, on veut fonctionner avec Dieu dans l'autre sens. Montre-moi qui, montre-moi quoi, montre-moi comment ta promesse va se réaliser, montre-moi à quoi ça va ressembler ensuite. Quand j'aurai vu, je croirai, je me lèverai et j'irai. Des fois, on fonctionne comme ça. Et ça nous arrive, je mets de condamnation sur personne, mais Jésus nous le rappelle. Jésus nous le rappelle dans Jean 19, verset 20. Et Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est bien que tu m'aies vu et que tu aies cru. » Mais Jésus pousse un peu plus loin. On est heureux de croire sans voir. Il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose de plus grand, il y a quelque chose de plus beau à croire sans voir. Moi, je trouve ça merveilleux. Parce que ça veut dire que tu dépends totalement de Dieu en permanence, dans chaque étape, sans nécessairement voir les choses. Tu dépends de Dieu. Et là, quand tu as la promesse, quelle joie et quel bonheur de voir cette promesse se réaliser parce que tu as été heureux de croire sans voir. Et je réalisais, imaginez, on va passer avec un autre personnage, imaginez la scène où Dieu dit à Moïse de libérer le peuple. On se met en scène, Dieu sur la montagne avec Moïse, il parle, proche du buisson, puis là il dit, Dieu dit, je veux que tu guides le peuple, tu le sors d'Égypte, puis que tu l'emmènes en terre promise. J'ai une promesse pour vous, là, le peuple. Vous allez en terre promise. Il y a une terre pour vous, prête à vous recevoir. Elle est là. Elle attend que vous. Là. Et imaginez, ça devait être 3 jours à la base. Retenez bien cette information. Ça devait être 3 jours. Maintenant, imaginez que Moïse, il dit à Dieu, montre-moi par où je vais passer. Montre-moi ce qui va se passer. Montre-moi tout de suite la terre promise pour que je sache la reconnaître. Donne-moi la fin avant que je débute. Je vais pouvoir m'appuyer sur ce que j'ai vu. Quand j'aurai vu tout ça, alors j'irai chercher. C'est pas grave. Quand j'aurai vu tout ça, alors j'irai les chercher et je conduirai tranquillement et sereinement dans le désert. Imaginez que Moïse ait dit ça à Dieu. Je pense que si Moïse avait vu ce qui allait se passer, il aurait reconsidéré sa demande. Puis il aurait dit, finalement, je préfère pas savoir. Parce qu'il y a 2-3 jours, c'est passé à 40 ans. Et c'est pas ainsi que Dieu veut qu'on fonctionne. C'est pas ainsi que Dieu veut fonctionner avec nous. Dieu veut pas nous donner la fin pour nous rassurer. Parce que Dieu veut pas qu'on s'appuie sur nous-mêmes. Il veut pas qu'on s'appuie sur ce qu'on aurait vu, ce qu'on penserait. Il veut pas qu'on s'appuie sur nos envies, nos sentiments. Mais Dieu veut que nous dépendions de lui à chaque pas, à chaque instant, en tenant ferme dans cette espérance. Parce qu'au moment où je me lève, je sais que à l'autre bout, à l'arrivée, il y a une promesse pour moi et je m'accroche à Dieu. Parce que Dieu veut voir notre foi en action. Dieu veut voir notre foi à l'œuvre. Et je vois une parenthèse là-dessus. Là, je lisais, quand je me préparais, je finissais de me préparer vendredi, puis je réalisais, parce que je lisais ma Bible, Puis je lisais Hébreux 11 qui nous parle de l'Ancien Testament. Puis là, je me rendais compte, dans l'Ancien Testament, ils étaient en train de... Ils n'avaient pas l'Ancien Testament. Ils étaient en train d'écrire l'histoire, hein? Ils étaient en train de la faire, l'histoire, la façonner. Il n'y avait pas de support aux autres pour les aider à savoir que les histoires finissent toujours bien avec Dieu. Ils devaient dépendre complètement de Dieu. Et moi, je suis dans Hébreu, dans le Nouveau Testament, puis je lis, puis je me dis, attends, mais moi j'ai déjà la fin des histoires. J'ai déjà les témoignages des histoires qui sont passées, des histoires de foi, des promesses de Dieu qui sont réalisées. Et là, je me disais, me semble que ça devrait m'encourager, ça devrait nous encourager à ne pas douter. On a des histoires, des témoignages avec des fins où Dieu est glorieux, où Dieu réalise les promesses. Ça devrait nous encourager, ça. Ça devrait nous aider. On est chanceux. Comptez-vous chanceux, on a les fins d'histoire. On sait déjà ce qui se passe. Fait que Dieu nous le permet, nous permet. Et ça doit être des perles qui nous permettent de maintenir notre foi solide, solidement ancrée. C'est des perles qui doivent nous permettre, ces témoignages-là, de dire ça s'est passé, ça va encore se passer aujourd'hui. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc si ça s'est passé hier, ça va se passer pour moi aujourd'hui aussi. Et pour moi en 2024. Amen. Fin de la parenthèse. Mais quand vous lirez votre Nouveau Testament, vous vous poserez des questions, vous direz que ceux de l'Ancien, il n'y avait pas tout ça avant. Donc pour revenir à Moïse, c'est l'espérance de la terre promise. C'est l'espérance de la liberté pour le peuple. C'est l'espérance de la délivrance qui va permettre à Moïse de guider le peuple dans le désert à travers toutes les innombrables épreuves que le peuple lui a fait subir et qu'il a endurées. Moïse, il avait la foi en la promesse de Dieu. Parce que quand tu as un peuple innombrable qui veut t'assassiner, il faut que tu t'accroches à quelque chose de solide pour rester à la tête. Et cette chose solide-là, c'est la foi. C'est sa foi. Il était attaché à cette espérance-là. Et c'est cette espérance-là dans nos vies qui va faire toute la différence. La foi de Moïse a triomphé dans l'espérance en la promesse de Dieu parce qu'il a vu la terre promise pour son peuple. Il a finalement vu de loin. Il a constaté que Dieu avait bel et bien préparé un lieu pour eux. C'est magnifique. Et la vraie foi d'Abraham, de Moïse, c'est une foi qui continue d'avancer dans les temps difficiles, frères et sœurs. C'est une foi qui, dans les temps de doute, dans les temps où ça pourrait paraître inespéré, ça pourrait paraître triste, ça pourrait paraître incertain, complètement contradictoire, parce qu'ils ont la certitude qu'il y a une réalisation de la promesse, ils vont jusqu'au bout du chemin. C'est ça qui fait de leur foi une force et qui leur permet de maintenir et d'avancer. Et la foi dans la parole de Dieu et dans les promesses de Dieu, c'est l'élément déclencheur. Ça doit être l'élément déclencheur qui permet de nous mettre en action dans ce que Dieu veut pour nos vies. Ça doit être vraiment la clé dans le contact. C'est ça, clac, clac. Et là, le moteur, il démarre et on fonce. Vous avez foi que votre voiture, elle a quatre roues et qu'elle roule. Flan, on y va. Et ce qui distingue la foi de ces hommes, et ça je trouve ça merveilleux, s'il y a aussi quelque chose à retenir, c'est qu'elle a une certitude concernant l'avenir. Ce n'est pas une foi morte. Ce n'est pas une foi qui dit juste là. C'est une foi qui a une certitude pour l'avenir. J'ai la certitude que la parole de Dieu se réalise. J'ai la certitude que les promesses de Dieu vont se réaliser. J'ai la certitude d'un avenir avec Dieu. Et je trouve ça beau, parce que cette certitude-là, elle dit... Nous n'allons pas obtenir ce que Dieu promet, nous l'avons déjà. Elle fait ça, cette certitude-là. Elle dit, je l'ai déjà par la foi. Amen. Un pasteur a dit, c'est la réalité même que nous espérons. Par la foi, nous devenons propriétaires des bénédictions promises qui sont réelles et substantielles. Abraham espérait la terre promise parce qu'il en était déjà propriétaire de plein droit par la foi. Jésus a déjà accompli notre salut éternel. On l'a déjà. On va en parler tantôt. Par la foi, nous en devenons réellement propriétaires. La foi n'est pas le fruit de notre imagination, d'un rêve ou d'une illusion. La foi prend déjà possession aujourd'hui de ce que nous espérons. Et elle le fait avec conviction et assurance. Ça, la foi. Et quand on lit Hébreux 11, tous les héros et toutes ces héroïnes décrites, hein, parce qu'on parle de tout le monde, là, Gédéon, tous les grands noms qu'on apprend à l'école du dimanche, tous ces héros de la foi, eux autres, qui sont décrits dans ce texte, c'est par la foi qu'ils ont agi. Si vous lisez Hébreux 11, chaque début commence, c'est par la foi que un tel a fait ça. C'est par la foi que un tel a fait ça. C'est par la foi. Et je vous dis, quand vous lisez Hébreux 11, à la force, par la foi, ça finit par rentrer. La répétition, c'est par la foi, c'est par la foi. Et qu'à la fin, tu finis Hébreux 11, tu dis, c'est par la foi que je me lève et que j'avance. Et c'est par la foi qu'ils ont agi, ne sachant pas ce qui les attendait. Aucun d'eux savait ce qui les attendait, ne sachant pas la fin de leurs histoires. Ne sachant pas comment, mais par la foi, ils se sont saisis de la promesse pour la rendre réelle et vivante. Et c'est l'attitude de pensée, ça. C'est une attitude de pensée, c'est espérer les choses que l'on ne voit pas, mais qui pourtant sont déjà réalisées car Dieu l'a promis. Amen. La vraie foi, suite à ça, on peut voir que la vraie foi, c'est celle qui voit l'invisible. Oh, amen. C'est celle qui voit l'invisible. Et je veux vous mettre en contexte avec ça. Ce n'est pas dans mes notes, mais je veux vous mettre en contexte avec ça. Il y a des artistes dans cette salle, que ce soit musical, peintre, photographe, qu'importe, des artistes. Et les artistes, vous êtes fascinants parce que vous voyez des choses que les autres gens ne voient pas. Je sais pas, vous n'êtes pas convaincus. Moi, je vois un tableau blanc, je vois un tableau blanc. Lui, le peintre, il voit plein de couleurs, un dessin, machin. Moi, je rentre dans une pièce vide, je vois une pièce vide. L'architecte, lui, il voit des murs, il voit des constructions. Les décorateurs et décoratrices d'intérieur, ils voient des... Moi, je rentre dans une pièce vide, elle est vide. Ça résonne, puis ça me fait rire. Mais, et la vraie foi, spirituellement, elle fait la même chose. Elle voit des choses qui ne sont pas réelles, qui ne sont pas physiquement réelles, mais qui existent bel et bien. Hébreux 11, on retourne au verset 1, et on va prendre la deuxième partie du verset. Or, la foi, trois petits points, c'est la démonstration de ces choses, de celles qu'on ne voit pas, de ces choses-là qu'on ne voit pas, de ces choses invisibles. Nos yeux humains voient des choses visibles. Vous êtes tous d'accord? Vous voyez des chaises dans le sanctuaire? Vous voyez des choses matérielles, des choses terrestres. Mais par la foi, on a la capacité de voir des choses réelles qui sont invisibles. C'est fort, ça. C'est fort. La foi, c'est la preuve des choses que l'on ne voit pas avec nos yeux humains. Et il est temps, frères et sœurs, de mettre nos lunettes de la foi afin de corriger notre vision et d'élargir notre vision terrestre et matérielle pour voir ces choses invisibles mais bel et bien réelles que Dieu fait à tous les jours. Des choses que Dieu prévoit pour nous et bien sûr de voir sa main puissante dans nos vies. Hébreux 11, verset 27, encore avec Moïse. J'aime beaucoup ce verset-là, qui nous dit « C'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte, sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé, comme s'il voyait celui qui est invisible. » On sait que Moïse parlait avec Dieu comme la personne la plus proche là, avec Dieu, et Moïse était capable de voir la main de Dieu par la foi, avec les yeux de la foi. Moïse était capable et a pu voir Dieu agir dans le désert. Il a pu voir le voir agir avec le peuple. Moïse a pu voir que Dieu était avec eux et c'est ça qui l'a encouragé à persévérer, à espérer. Mais il n'a pas vu avec ses propres yeux. Il l'a vu par la foi. Une citation que j'ai trouvée qui dit « Nous recueillons que la vraie nature de la foi est d'avoir toujours Dieu devant les yeux. » Secondement, que la foi regarde des choses plus hautes et cachées en Dieu que celles que nos sens peuvent appréhender. Je vais la relire, celle-là, elle est trop belle. Nous recueillons que la vraie nature de la foi est d'avoir toujours Dieu devant les yeux. Secondement, que la foi regarde des choses plus hautes et cachées en Dieu que celles que nos sens peuvent appréhender. Moi, je trouve ça magnifique. Autrement dit, les yeux de la foi voient au-delà. Voit au-delà des choses matérielles, voit au-delà des choses physiques. Il voit Dieu, il voit les promesses, il voit les victoires, les réalisations, il voit les guérisons. Il voit les choses qui sont bien réelles, mais qui sont invisibles. Hébreux 11, verset 30. Un autre monsieur qu'on connaît bien. « C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées après que le peuple en avait fait le tour pendant 7 jours. Et pourquoi je mets ça à ce moment-ci ? Je trouve ça particulier, parce que le peuple, la première fois qu'ils se sont levés pour aller faire le tour de muraille, ils voyaient déjà les murailles tomber, ils voyaient déjà la victoire. Parce qu'il en faut sacrément de la foi et de la confiance en Dieu pour se lever, faire de la trompette autour d'une ville fortifiée en espérant que les murailles tombent. Il en faut de la foi. Mais eux, Josué avait cette vision-là de l'invisible, au-delà des choses physiques et matérielles, que la victoire, elle était de l'autre côté des murailles. Mais la victoire, il l'avait déjà vue. Donc la muraille n'était plus un obstacle. La muraille était juste une épreuve. C'était juste une chose que Dieu leur demandait de faire. Et ça prend une grande dose de foi et d'assurance en Dieu pour réaliser ce qu'ils ont réalisé, les Israélites, à ce moment-là. Et Dieu a dit qu'il donnerait la victoire au peuple. Alors, ils auront la victoire. Et c'est ce que Josué avait compris. Dieu m'a dit que j'aurai la victoire. Alors, j'aurai la victoire. Pour plus compliqué que ça. Et ça, Josué l'avait compris par la foi. Parce qu'il voyait l'invisible. Il faut faire confiance et avoir la foi. Voir les victoires invisibles, mais bien réelles. Et par la foi, nous voyons et nous avons la preuve des choses invisibles qui sont bien réelles, qui sont belles et bien réelles, car elles sont les œuvres de la main de Dieu. Même si nous sommes limités, Dieu n'est pas limité dans l'espace et dans le temps. Dieu a déjà accompli des choses dans nos vies. Dieu a déjà accompli des choses. Nous, on doit croire que ces choses-là sont déjà bien belles et bien réelles. Parce qu'elles sont les œuvres de la main de Dieu. Et c'est par la foi, c'est par la foi que nous sommes capables de voir Dieu présent avec nous dans nos épreuves. La foi nous permet de voir sa main en action dans nos vies. Parce que, je disais dans mes recherches, je trouvais ça beau, l'Esprit de Dieu nous montre des choses cachées. C'est vrai. Inaccessibles à nos sens. Le monde est plongé dans l'obscurité. Et pourtant, par la foi, écoutez ça, c'est trop bon. Nous voyons la lumière du royaume de Dieu. Pourtant, son royaume est spirituel. Il a déjà commencé. Il avance. Il fait des conquêtes partout dans le monde. Personne n'est capable de voir son royaume à moins d'avoir la foi en Jésus-Christ. En Jésus, nous voyons la beauté du royaume de Dieu. Oui, la foi est puissante. Elle nous permet de saisir ce que nous espérons. Elle nous permet de voir ce qui est invisible. C'est magnifique. Et quand on réalise ça, ça nous donne encore de la motivation pour espérer en ce royaume, parce que notre plus belle espérance, elle est là. Et la vraie foi, frères et sœurs, c'est celle qui est en Jésus-Christ, simplement. La foi exprimée par ces héros dans Hébreux, elle est la même qu'aujourd'hui. Vous êtes d'accord ? La foi, cette foi-là qu'on nous décrit, n'a pas changé. Elle est la même dans l'ancien temps que maintenant. C'est la même foi. Elle ne changera pas. Et cette foi-là est accessible à travers Jésus et le Saint-Esprit. Mais alors pour nous aujourd'hui, quelle espérance ? Quelle espérance pour nous aujourd'hui ? Tantôt les questions, mon Sam. Quelle espérance pour nous aujourd'hui ? Où est notre espoir ? Tu vois, je vais répondre à ta question, Sam. Il est en Jésus seul, notre espoir. Il est en Jésus notre Sauveur. Notre Seigneur, lui qui a accompli l'ultime sacrifice pour que nous, enfin, nous ayons la victoire. Amen. La vraie foi, c'est de croire que nous avons déjà la victoire en Jésus et que nous sommes victorieux, que nous avons la délivrance en Jésus et que nous sommes délivrés. La vraie foi, c'est de croire que Dieu a quelque chose de mieux pour moi, une terre promise, qu'il m'a déjà préparée, un meilleur pays, qu'il a déjà tout placé, c'est de croire que Jésus est ce qu'il y a de mieux pour moi. Amen. Elle est là, notre espérance aujourd'hui. La vraie foi, frères et sœurs, elle proclame la victoire avant même le combat. La vraie foi, elle proclame la délivrance en pleine captivité. La vraie foi, elle proclame la guérison en pleine maladie. Amen. La vraie foi, elle proclame la paix en pleine tourmente. Car nous avons cette espérance en Dieu qu'il a déjà tout accompli, que nous avons déjà notre guérison, notre victoire et notre paix. elle est déjà acquise. Elle est là. À nous de la proclamer, à nous d'aller la chercher, à nous de nous lever tel un Abraham qui se lève pour aller chercher sa terre promise, à nous d'aller chercher notre victoire promise, notre délivrance promise, notre espérance promise, notre paix promise. La vraie foi, elle triomphe de tout. Amen. La vraie foi, elle triomphe de tout, car la foi, elle repose sur la parole de Dieu. La parole vivante qui est, plus fort que ça, la parole de Dieu qui est, yes, c'est ça, c'est bon. Et au-delà de toutes les victoires terrestres, frères et sœurs, la promesse terrestre, au-delà de tout ça, il y a une promesse qui est plus grande que toutes. Il y en a une plus grande que toutes. Il y en a une plus grande que toutes. Une promesse qui est le point central de la Bible, qui est le point central des héros de la foi, des patriarches et de nos vies. Hébreux 11, versets 13 à 16. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin. Et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire une patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Amen. Notre plus belle et plus grande espérance maintenant, c'est la nouvelle terre promise qui nous attend. C'est le royaume céleste de Dieu. Et les héros de l'Ancien Testament sont morts avec cette assurance que Dieu avait quelque chose de meilleur en réserve pour eux. Non pas juste sur cette terre, mais avec lui. Ils espéraient tous en la vie éternelle avec Dieu, dans une grande patrie céleste. Ils fixaient le regard sur le fait qu'ils étaient citoyens, de nouveaux cieux, des nouveaux citoyens de nouveaux cieux. Là-dessus qu'ils fixaient le regard. Et moi, quand j'écrivais ça, je m'imaginais Abraham marchant, Moïse marchant, puis disant, Seigneur, il y a une terre qui m'attend. Oui, il y a une terre physique, mais il y a une terre avec toi qui m'attend. Il y a une terre céleste qui m'attend. Et nous aussi, aujourd'hui, quand on marche, en allant chercher les promesses terrestres que Dieu nous a promises, on doit garder nos yeux sur la promesse céleste et éternelle que Dieu nous a faite de nous accueillir avec lui dans son royaume. Et ça devrait nous aider à persévérer dans notre foi, dans notre confiance en Dieu et dans notre amour pour Dieu. Parce que notre plus grande espérance, elle est dans le retour de Jésus qui reviendra nous chercher pour nous emmener avec lui dans la cité céleste. Elle est là, l'espérance. Et chose importante, frères et sœurs, cité dans laquelle nous sommes déjà citoyens. Toi qui as accepté le Seigneur, tu es déjà citoyen dans cette cité. Tu n'as pas à faire d'autre chose. Tu es déjà citoyen, c'est acquis, tu es déjà citoyen. La vraie foi, c'est celle qui se vit et qui s'appuie sur Jésus-Christ, comme l'unique espérance de nos vies, comme le but à atteindre, comme le chemin à suivre pour accéder à la plus belle et grande promesse, vivre avec Dieu éternellement. Amen. Je vais faire venir l'équipe de louanges. Dieu veut et nous a préparé une place dans son royaume parfait, rien que pour nous, rien que pour toi. Il est là le but de la foi, d'accéder à notre cité céleste, d'accéder à notre Dieu Tout-Puissant. Amen. Et c'est cette foi dont on a parlé qui doit nous motiver dans nos vies. C'est cette foi qui doit être le démarreur de notre existence. Cette foi qui nous permet d'aller de l'avant et qui nous permet de saisir les promesses de Dieu et de proclamer les victoires. Car pour ceux qui ont mis leur espérance en Jésus et qui vivent selon son plan, alors nous possédons déjà notre demeure céleste. Et en cette nouvelle année, frères et sœurs, ayons la foi, la vraie foi, pas une pensée positive, la vraie foi, celle qui espère dans ce qui n'est pas encore arrivé, celle qui croit fermement que Dieu donne la victoire, que Dieu donne la guérison, que Dieu réconforte et réconcilie, que Dieu aime. La foi, c'est posséder maintenant ce que nous recevrons plus tard, lorsque Dieu aura décidé de nous le donner. Lorsqu'il aura jugé bon pour nous de le recevoir. Et je veux nous souhaiter cette année, à tous, que nous recherchions à grandir dans notre foi, à persévérer dans notre foi. Qu'importe là où ce que tu es, et ce que tu vis présentement, que cette année 2024 soit un peu comme le début de la longue marche d'Abraham vers la terre promise. Que sur la parole de Dieu, il te dit « Lève, j'ai des promesses pour toi, je vais réaliser des choses cette année dans ta vie. » Et il te dit « Lève-toi et avance, fais-moi confiance. » Les promesses que Dieu a mises dans ta vie sont déjà réalisées. À toi d'aller les chercher. À nous d'aller les chercher. À nous de grandir cette année dans une foi vivante, active et constamment connectée avec Dieu. Amen.